Parce que c'est nos vœux, les vœux pour les autres. On veut que les autres soient en bonne santé. Nous souhaitons le bien. En tant que chrétiens, nous bénissons. Nous sommes appelés à bénir et non pas à maudire. La bénédiction, c'est souhaiter le bien pour les autres. C'est parfait. Nouvel an, c'est la période des souhaits. Alors, les souhaits pour nous, bien entendu, nous avons des souhaits. Nous ne sommes pas altruistes au point de nous oublier nous-mêmes, mais nous voulons penser à nous et aux autres, hein, à nos familles, mais aussi à tous ceux qui nous entourent. Alors, il y a bien sûr nos vies personnelles et il y a, je vais dire, l'Église. Parce que aussi, en Église, on a aussi des objectifs. Je crois que c'est important. Et atteindre des objectifs en Église ne sont pas seulement des individus qui de temps en temps se réunissent. Nous travaillons aussi avec des objectifs d'Église. Des objectifs évidemment personnels, parce que nous avons une vie personnelle. Des fois on oublie ça. Hein. Nous sommes mariés, donc nous avons la responsabilité de notre couple. Nous avons la responsabilité de nos enfants, c'est très important. Nous avons la responsabilité de l'engagement dans notre travail séculier qui nous offre quand même un salaire, c'est important. Ou pour ceux qui sont dans les études, ils ont la responsabilité de réussir, c'est vraiment un engagement. Bien sûr, il y a l'Église, je crois que c'est important. Dieu nous place en Église et Dieu a une vision pour cette Église de Bordelers. Et la vision, elle dépend de ce qu'on va faire, nous, dans cette Église. Si nous avons la vision, si nous avons des buts, des stratégies, alors nous allons aller vers ces stratégies pour les atteindre. Alors, nous avons tous des résolutions et au début d'année, comme vous le savez, hein, nous préparons des fois mal à tenir, à comment on tient les résolutions dans nos cœurs. Les résolutions, les Babyloniens en avaient déjà, il y a longtemps, hein, 2-3 000 avant Jésus-Christ, il y avait déjà des gens qui pensaient à des résolutions. Et pour nous, qu'est-ce que c'est arrêter, peut-être pour certaines personnes, c'est pas mon cas en tout cas, arrêter de fumer, sûrement pas, je ne fume pas. S'inscrire à une salle de sport, ça c'est vrai que j'ai pensé souvent, mais il ne faut pas que ça s'arrête à la pensée, hein, il faut se mettre au régime, ça c'est vrai, ça, hein. Il faut se le rappeler quand on est devant une barre de chocolat, évidemment, pas après, parce que c'est souvent la culpabilité, après qu'on ait mangé quelque chose de très bon, ah zut, j'ai craqué encore. Aller dormir plus tôt, hein, bien sûr, suivre des cours du soir, etc. Selon une étude menée par un chercheur britannique Richard Wiseman, auprès de 3000 personnes, 88% des gens échouent dans la réalisation de leurs résolutions. C'est très encourageant, hein, 88% d'échecs. Si c'est... Jean-Baptiste Daillé, chercheur en psychologie de la motivation à l'Université catholique de Louvain, dit qu'un changement de comportement demande une préparation. Il y a une préparation. La volonté est localisée dans le cortex frontal, préfrontal. Si cette zone est surchargée, la volonté sera moins forte, dit-il. Donc, c'est vrai que si on surcharge, hein, de désir, de résolution, s'il y en a trop, il va y avoir une surchauffe. Hein, c'est comme les ordinateurs qui surchauffent. Alors, 12 conseils. Être réaliste. Hein, si on manque de réalisme et qu'on voit des choses trop grandes, alors on va peut-être échouer. Donc il faut être réaliste quand même, avoir des ambitions, il en faut, mais il faut quand même un certain réalisme. Il faut se fixer des objectifs réalistes. Si on décide de faire un jogging 2 fois par semaine, imaginez une solution quand il neige, quand il pleut, pour éviter de considérer son objectif comme un échec. Ouais, j'ai pas su aller faire mon jogging, mais oui, mais il y avait des situations atténuantes. Mais il faut voir un peu comment pallier. Qu'est-ce que je fais si jamais je ne sais pas, pour ne pas avoir ce sentiment d'échec. Parce qu'avec le sentiment d'échec, je pourrais arrêter complètement. Et ça, c'est pas trop bon. Être précis. Deuxième chose, si l'objectif visé est trop vague, on risque de ne pas savoir par où commencer. Donc il faut être précis. faut pas quelque chose de très général, parce qu'un truc général, je sais pas si on va réussir. Troisième chose, avoir le contrôle de cet objectif. Je ne peux pas avoir l'objectif d'avoir plus d'amis, mais plutôt d'être plus agréable avec les gens. Donc, je ne peux pas dire que je vais avoir plus d'amis en 2017, mais je peux, ça c'est une possibilité, être plus agréable avec les autres. Et si je suis plus agréable avec les autres, il est possible que mes relations sociales vont grandir. Hein? Ça c'est une chose toute simple, mais c'est important. Y aller par étapes. Étapes, des étapes. Il vaut mieux découper l'objectif en sous-objectifs et l'atteindre par étapes. Mon objectif ne sera pas d'amener 100 personnes au Seigneur cette année, mais de témoigner par exemple à 2 personnes par semaine. Ça, c'est réaliste. Parler du Seigneur à 2 personnes par semaine, c'est possible. Mais si je dois atteindre 100 personnes, je me suis fixé atteindre 100 personnes à les faire venir à l'église ou quoi que ce soit. C'est trop vaste, c'est trop. Donc il faut y aller par étapes. Garder des traces écrites, écrire, ça c'est important. Formuler clairement sa résolution sur un carton collé sur le frigo, c'est une sorte de contrat avec soi-même. Tenir un journal perso de ses progrès, c'est vrai que des carnets c'est important. Je ne fais pas toujours, mais je pense que c'est une bonne chose. Et relire ce qu'on a écrit, des résolutions, et puis dire, tiens, au bout d'un temps, c'est passé à trappe ou c'est toujours c'est actif, ça c'est toujours quelque chose que je poursuis ou je l'ai abandonné, c'est quoi? Et donc c'est important d'avoir des traces écrites. Ça permet d'aider la mémoire et de voir l'évolution, de contrôler s'il y a une évolution par rapport à ce que j'ai comme objectif. En parler. C'est important. Si je le garde pour moi, ben finalement, je suis lié à personne d'autre qu'à moi. Si j'y pense plus, ben personne ne va me le rappeler. Et finalement, je ne dois des comptes à personne. Mais si j'en parle, je vais augmenter considérablement les chances de réussite. Cela permet un soutien de quelqu'un qui se soucie de nos progrès. On va le dire à quelqu'un qui se soucie de nos progrès. Et il va être comme un coach au tournée avec et ça c'est pas mal. On peut coacher d'autres personnes qui vont nous coacher aussi. Et ça peut être intéressant d'être coaché et de coacher d'autres personnes. Hein, réfléchissez à des personnes qui peuvent vraiment vous aider dans ce domaine. Et il faut bien choisir, hein, bien choisir les personnes. Alors il faut être vraiment motivé. Il faut connaître le but et les bénéfices qui seront atteints à long terme. Et se les rappeler en les écrivant et en les relisant régulièrement. Le problème, c'est que nous sommes négatifs. Nous voyons tout ce qui ne va pas. Mais c'est important pour nous de fixer les regards sur qu'est-ce qui va se produire à long terme. Donc, les bénéfices, le but, pourquoi nous faisons les choses, les bénéfices que nous en recevrons. Ça va nous motiver. Ça va nous permettre de garder la motivation. Alors, formuler les choses positivement, je crois que c'est très important. Il vaut mieux se dire « je vais apprendre à me relaxer en me confiant en Christ » plutôt que de me dire « je vais arrêter de stresser ou de m'emporter pour un rien ». L'aspect négatif, c'est négatif. L'aspect positif, c'est autre chose. Il vaut toujours mieux voir la bouteille à moitié pleine qu'à moitié vide. Et c'est important de positiver les choses, apprendre à se relaxer en se confiant en Christ, hein, se relaxer, relaxez-vous, disent certains, il faut se relaxer en Christ, lâche, allez, détends-toi, voilà, c'est vraiment se détendre intérieurement, c'est important ça, se détendre, hein, je crois que c'est vraiment important, nous sommes dans des vies où le rendement est très important dans notre société, le rendement. Et le rendement nous stresse et nous sommes tendus avec ces choses. Et on doit pouvoir arriver à se détendre. Ça, c'est important, se détendre. Hein, pas seulement dans son bain, mais aussi dans la confiance en Christ. Et je crois que c'est important. Le Seigneur, il est avec nous, il reste avec nous. Et je crois que c'est important. Accepter les ratés. Nous ne réussirons pas tout. Hein. Il faut quand même être clair. Il y a des moments où il y a des petits ratés dans notre vie. Et ce n'est pas pour ça qu'il faut se décourager, se démotiver et tout arrêter, flanquer tout par la fenêtre. Non, les petits ratés, ça peut arriver. Il faut accepter les possibilités de rater, considérer que c'est peut-être un moment d'égarement dans une voie globalement positive. J'aime bien ça. La voie est globalement positive et il y a eu un petit moment d'égarement. Et qui n'en a pas, hein? C'est pas grave, c'est pas une catastrophe. Et on ne se décourage pas pour ça, mais on va continuer d'aller de l'avant. Et ça, je crois que c'est important. Donc, pas mettre vraiment la loupe sur le petit truc qui ne va pas, mais voir que finalement, la courbe est globalement ascendante. Et ça, c'est important. Hein. On regarde les courbes, hein, sur le prix du pétrole. Vous ne faites pas ça sur Total. Et on regarde un peu depuis 5 ans. Hein. Et voilà, ma courbe par rapport à l'objectif que j'ai, est-ce qu'elle va vers le dessus? Si globalement, il y a eu quelques petits trucs, c'est pas trop grave. L'important, c'est qu'en finalité, eh bien, globalement, ça monte. Alors, se préparer, je crois que c'est très important. Il faut envisager tous les aspects pratiques avant de s'engager. Il faut éviter de se fixer une résolution sur laquelle on a déjà échoué. Si on a déjà échoué et qu'on a toujours la même... Il faut changer de stratégie, alors, pour voir les choses autrement. Et on peut se faire aider. On peut se faire aider. Si on a échoué, le risque de rééchouer est possible. Donc, il faut peut-être se faire coacher, comme on le disait tantôt, se faire aider. S'octroyer des récompenses, c'est important aussi. Hein. Voir qu'on progresse et en ressentir les bienfaits, c'est une récompense en soi. Mais on peut s'offrir une récompense quand on a atteint un objectif intermédiaire. Et je crois qu'il faut célébrer toutes les victoires, même si elles sont intermédiaires. On n'a pas encore toute la victoire totale dans un domaine, mais les petites victoires intermédiaires doivent être célébrées. Quelquefois, nous ne célébrons pas toujours. Nous ne célébrons pas toujours. Nous devons célébrer davantage. Je le dis pour moi. Hein. Je dois célébrer davantage les moindres petites victoires. Les moindres petites choses qui vont bien, nous devons les célébrer. Avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance, une confiance minimale en sa capacité à changer les choses. Si j'ai perdu ma confiance en moi. Et confiance en Dieu, il veut vous rendre votre confiance en vous, dans les potentiels, les capacités qu'il vous a données. Hein. Vous avez de la valeur, vous avez aussi reçu des capacités, vous avez reçu en Dieu, nous avons le vouloir et le faire. Et le Seigneur voit que vous avez de la valeur, mais plus que cela, autant que cela, il vous a aussi donné la capacité, hein, de réussir. On peut commencer par se fixer un objectif plus facile avant de se lancer dans un défi plus ambitieux. Aller du plus facile au plus difficile. Alors, je voudrais simplement voir un exemple dans la Bible d'une personne qui a eu des résolutions dans son cœur. Et c'est Déborah. Déborah qui veut dire petite abeille. Hein, Déborah dans la Bible... Un des juges de la Bible, dans le livre des juges, Déborah, prophétesse, une prophétesse juge en Israël. Et je vous invite dans Juges chapitre 5 à partir du verset 1er. Et on va voir un petit peu, c'était Barak qui était le chef d'Israël à ce temps-là. Les Israélites firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Éhoud était mort, et l'Éternel les vendit entre les mains de Yabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatsor. Le chef de son armée était Sisera. Chapitre 5. Oui. Vous n'avez pas ça. Attendez, je vais aller voir. C'est peut-être 4 alors. Peut-être moi qui me suis trompé, juge. Attendez, je vais voir. Juge. C'est 4? Oui, c'est le chapitre 4, excusez-moi. Hein. Je me suis trompé de chapitre. Ah, c'est un cantique, c'était très beau, on en verra une partie. Donc, je recommence. Les Israélites firent encore ce qui déplut à l'Éternel après la mort d'Éhud. L'Éternel les vendit alors à Jabin, le roi de Canaan, qui régnait à Hatsor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Aroshet-Goïm. Les Israélites crièrent à l'Éternel car Jabin avait 900 chars de fer et les opprimait avec violence depuis 20 ans. À cette époque, Déborah, une prophétesse mariée à un certain Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm, et les Israélites montaient vers elle pour être jugés. Elle fit appeler Barak, fils d'Abinoam, originaire de Kedesh-Nephtali, et elle lui dit « L'Éternel, le Dieu d'Israël, t'a donné l'ordre suivant. Vas-y, prends la direction du mont Tabor, en emmenant 10 000 hommes des tribus de Nephtali de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon, Sisra, le chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak dit à Déborah, « Si tu viens avec moi, je partirai, mais si tu ne viens pas avec moi, je ne partirai pas. » Elle répondit, « J'irai donc avec toi, mais tu n'auras aucune gloire sur la voie où tu t'engages, car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisra. » Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kedesh. Barak convoqua les tribus de Zabulon et Nephtali à Kedesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite et Déborah partit avec lui. Voilà, alors nous voyons dans le cantique de Déborah, verset 15. Les princes d'Issacar furent avec Déborah, Issacar est pour Barak. Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée près des ruisseaux de Ruben. Grandes furent les résolutions du cœur. Pourquoi es-tu resté entre deux parcs à écouter le bêlement des troupeaux? Au ruisseau de Ruben, grandes furent les délibérations du cœur. Galat, au-delà du Jourdain, y est resté, des cieux ont combattu, de leur orbite, les étoiles combattirent contre Sisera. Voilà, donc les résolutions, il va y en avoir dans plusieurs tribus. Hein, on parle de toutes les tribus d'Israël et on voit les actions des uns et des autres. Il y a des tribus qui ont été avec Barak, avec Déborah. On voit Déborah qui a eu la vision. Elle savait à qui elle devait adresser la parole, à Barak. Il devait constituer une armée pour aller se battre contre Jabin, roi de Canaan, dont Sisera était le chef de l'armée. Et voilà, Dieu prophétisait une victoire. Bon, pourquoi est-ce qu'ils étaient dans la défaite? Parce que ils avaient été atteints par le problème de l'idolâtrie. Ils avaient commencé à être idolâtres et Dieu n'était plus avec Israël. Mais chaque fois, comme au temps des juges, il y a un cycle de quatre choses se produisent toujours dans le livre des juges, invariablement. Donc il y a l'idolâtrie, hein, parce que tous les peuples autour sont idolâtres. Israël doit servir le Dieu unique. Alors qu'est-ce qui se passe s'ils deviennent idolâtres comme les autres peuples? Évidemment, Dieu n'est pas d'accord avec l'idolâtrie, alors ils deviennent esclaves. Ils deviennent esclaves de leurs ennemis, hein. Et nous, quand nous péchons, nous devenons l'esclave de notre péché. C'est comme ça. Et c'est le diable qui a le dessus sur nos vies. Alors qu'est-ce qui se passe? Courbés dans l'esclavage de leurs maux, ils crient à Dieu. Ça, c'est la troisième étape. Ils crient à Dieu. Seigneur, sauve-nous, nous n'en pouvons plus. C'est trop dur, c'est pas possible. La vie, c'est vraiment devenu une catastrophe. Sauve-nous, fais quelque chose pour nous. Et Dieu, qui est bon, il envoie un libérateur. Et alors ils sont très très contents, ils ont un libérateur, ils gagnent contre leurs ennemis, c'est merveilleux, c'est extraordinaire enfin, voilà, notre Dieu, on savait, il est puissant. Et puis, de nouveau, qu'est-ce qui se passe? C'est un cycle, hein, comme les quatre saisons. Voilà, ils commencent à redevenir idolâtres, ils oublient Dieu, hein, on disait de ne pas oublier, hein, et ils commencent à oublier Dieu, et puis ils vivent notre petite vie sans Dieu. Et puis c'est la catastrophe, c'est le problème qui s'accumule, on ne parvient pas à s'en sortir, on devient esclave de ce qui triomphe en nous. Et puis voilà, il crie vers Dieu et Dieu entend des cieux, lui qui est bon et qui a compassion de nous Et voilà, il envoie un sauveur, et puis c'est merveilleux, mais on a vite oublié. Donc c'est un cycle. Et là, ils sont dans ce cycle, et Dieu va utiliser Déborah pour sauver son peuple. Donc, vous comprenez qu'ils ont crié à Dieu. Et alors, et qui viendra pour aller avec le libérateur, le juge? Qui viendra pour aller dans le plan de Dieu pour contrer l'adversaire? Il y avait un objectif là. Mais certaines tribus vont rester à la maison, on va voir. Et puis d'autres vont se lever. Hein? C'est une attitude différente. Ruben a eu des résolutions, mais n'a finalement rien fait pour aider Barak à réussir. Ruben, voilà, qu'est-ce qu'il a dit de Ruben? Près des eaux de Ruben, grandes furent les résolutions du cœur. Grandes furent les résolutions du cœur. Voilà, on a des grandes résolutions. Hein? Début 2017, j'ai des grandes résolutions. Oui, mais Ruben avait aussi des grandes résolutions. C'était bien. Mais pourquoi es-tu resté entre deux parcs à écouter les bêlements des troupeaux au ruisseau de Ruben? Grandes furent les délibérations du cœur. Il n'y a pas eu de suivi. Il y a eu des délibérations, il y a eu des résolutions, mais non suivi des faits. Et ils n'ont pas été se battre. Ils n'ont pas été se battre. Et voilà, donc Dieu a dû faire sans eux en tout cas. Hein, il y avait le désir, mais c'était insuffisant. Il n'y a pas eu d'actions qui ont suivi le désir. Il y a eu l'écoute de la parole de Dieu. Ils ont entendu, mais il n'y a rien qui a suivi. Il n'y a pas de mise en pratique. Et la résolution doit être suivie d'une mise en pratique. Il n'y a rien à faire. Si on ne se lève pas et qu'on reste assis, il n'y a pas grand-chose qui se passera. Même si tout le peuple n'était pas avec Barak, il a réussi, car Dieu était avec lui pour lui donner la victoire. Mais Dieu a dû faire autrement, parce que c'est pas avec Ruben qu'il aurait pu s'en sortir. À ce moment-là, en tout cas. Résolution de Déborah. Voilà la résolution de Déborah. C'est une femme résolue. Et dans la parole de Dieu, il y a des hommes qui sont résolus. Il y a des femmes aussi. Là, c'est une femme au caractère trempé. Hein, ça, c'est clair. Et cette femme, elle dit « Je me suis levée ». Voilà, « Je me suis levée ». Elle possède une foi agissante. Elle se lève pour servir le Seigneur. Nous devons être des hommes et des femmes sur le plan du caractère. Nous devons être des gens qui sont affirmés dans leur désir, pas seulement un désir, dans le fait de se lever, de joindre l'action à la parole. Néhémie, chapitre 2, verset 18, on voit ceci, ça c'est avec Néhémie. « Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu était sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. » Voilà, encore des gens qui ont eu une bonne résolution au temps de Néhémie, ils ont reconstruit les murailles de Jérusalem. Il y a eu un homme, un leader, un homme qui a pu faire convaincre, qui a pu montrer aussi comment Dieu avait eu sa bonne main sur lui et sur le voyage, etc. Et ils vont unanimement se dire, levons-nous et bâtissons, nous allons faire quelque chose, nous n'allons pas rester comme indifférents à tout ça, en continuant notre petite vie pépère comme avant, mais ils vont se mettre avec Néhémie pour changer les choses. Voilà, parce que si nous ne nous levons pas pour agir après avoir eu une bonne résolution, eh bien, cette résolution va échouer, évidemment. Donc, elle ne peut réussir qu'à la condition qu'on se lève. Je me suis levé comme une mère. Elle est inspirée par la compassion pour le peuple de Dieu et son conducteur Barak. Elle a de la compassion. Elle est éprise aux entrailles. Elle vit ça de l'intérieur. Ce n'est pas quelque chose de volontaire seulement, une bonne action à faire pour le monde ou quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment, elle a de la compassion pour son peuple. Elle voit la catastrophe dans le peuple d'Israël et elle se lève parce qu'elle a de la compassion. Et Dieu, il se lève aussi parce qu'il a de la compassion. Voyez, je me rappelle toujours cette parole avec Étienne qui était lapidé et Jésus qui était assis et qui s'est levé de son trône. Hein, et qui priait pour Étienne. Et voilà, levons-nous aussi pour non seulement pour prier, mais pour mener les combats que nous devons combattre. Combat le bon combat de la foi. En 2017, combat le bon combat de la foi. C'est Paul qui nous engage à ce combat. Et Néhémie, il a vraiment donné à cœur aux gens qu'il écoutait de se lever, de bâtir. Je crois que c'est important. Donc, désirer la gloire de Dieu, c'est ce qui animait David quand il affronta Goliath et le vainquit. Et David s'est levé aussi. Il aurait pu dire, oh, ce géant-là, c'est pas pour moi. T'as vu la différence de taille, quand je serai plus grand, c'est-à-dire jamais. Je pourrais jamais battre un gars pareil, quoi. Goliath, c'est un mec de près de 3 mètres, comment est-ce que tu veux que je fasse? Mais il n'a pas considéré sa taille, il n'a pas fait des comparaisons physiologiques entre lui et le géant, en se disant... Non, il a vu la gloire de Dieu. Il a vu que la gloire de Dieu était bafouée, le nom du Seigneur était bafoué, et ça, il ne pouvait pas l'accepter. Pas par présomption, mais parce qu'il avait aussi l'onction. Et nous avons l'onction, hein? L'onction du Saint-Esprit sur nos vies. Si nous avons reçu le Seigneur, si nous avons reçu l'Esprit du Seigneur, nous avons la capacité aussi de répondre à l'appel de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui nous presse à prendre des résolutions pour la gloire et l'honneur de Dieu. L'amour de Dieu nous presse, dit l'apôtre Paul. Et s'il nous presse, il va y avoir des actions. Dieu ne nous met pas son amour pour qu'on ne fasse rien, mais cet amour-là, il va produire quelque chose. Il faut se laisser diriger selon la parole de Dieu, et dans la parole, il y a bien sûr des principes, il y a des objectifs à atteindre. Un des objectifs, c'est de communiquer l'évangile autour de nous. C'est d'être en paix avec tous. Si nous ne sommes pas en paix, bien, réglons les choses, nos différends. Il y a toutes sortes d'objectifs différents. Si nous sommes paresseux de nature, eh bien là, il faut se secouer. Nous avons une tendance dépressive négative, il faut s'entourer de versets qui nous parlent de choses positives, qui nous encouragent, qui nous motivent à aller vers les choses que Dieu nous désire pour nous. Nous ne voulons pas accepter d'être négatif, pas du tout. Ce n'est pas ça qui va nous porter. Alors, le nom de Déborah est une résolution en elle-même. Ça veut dire petite abeille. Et une abeille, ça travaille, ça butine. Dans la ruche de Dieu. Et la ruche de Dieu, pour nous, nous sommes des abeilles, quelque part. Hein. Dans le royaume de Dieu, il y a du boulot pour chacun. Il y a du travail, il y a un service. Nous avons tous au moins un don. Nous avons la capacité de faire l'œuvre de Dieu. Hein. Dans les limites de ce que Dieu nous montre. Et donc l'abeille est active, elle s'engage, elle travaille courageusement, d'une manière désintéressée, avec un esprit d'équipe. C'est ça, l'abeille. Elle ne travaille pas toute seule, hein, c'est pas du solo. Hein. D'accord? C'est l'abeille, elle travaille avec les autres. Hein. Il y en a qui sont spécifiquement dédiés à la sécurité de la ruche, hein, à la protection de la mère, de la reine. Hein, et d'autres pour aller butiner dans les fleurs. Et chacun a sa fonction dans le corps de Christ. D'accord? Et nous avons tous une part à jouer. Et ça, c'est un principe. Ce n'est pas seulement le pasteur qui fait tout, qui amène les gens. Non. Vous êtes le royaume de Dieu sur la terre. Vous êtes Jésus qui va être vu, une lettre de Christ qui va être vue partout sur la terre. Devons manifester la joie, l'amour, la paix, la tempérance, etc. Chacun, nous avons un rôle à jouer. Et Dieu veut nous montrer ce qu'il a pour nous. Et on va travailler en équipe. Hein? Alors, Déborah, elle dépend de Dieu dans son service. Elle communique la pensée de Dieu et non la sienne. Ce n'est pas des bonnes résolutions qu'elle a trouvées dans, je ne sais pas, en lisant quelque chose. Mais elle a, c'est vrai qu'on peut lire déjà la parole de Dieu, des bons livres bibliques qui peuvent nous inspirer. On doit avoir la pensée de Dieu. Je crois que c'est essentiel. Et elle, en tant que prophétesse, elle avait la pensée de Dieu. C'était pas, c'est présupposé à elle. Parce que des fois, on prend nos pensées pour la pensée de Dieu. Il ne faut pas se tromper non plus. Hein. Des fois, l'ego surdimensionné de certaines personnes leur fait croire à quelque chose qui n'est pas la réalité. Et des fois, on se trompe même dans nos prières. Des fois, ce qu'on demande à Dieu ne sera pas accepté par Dieu, on sera déçu, mais on n'a peut-être pas prié selon le cœur de Dieu. Il faut peut-être revoir nos prières. Hein. Il y a des trucs qu'on a prié et on n'a pas reçu. Et peut-être avec le temps, on peut dire, oui, ça j'aurais, c'était pas comme ça que j'aurais dû prier. Et apprends-nous à prier. C'est les disciples qui disaient ça. Apprends-nous à prier pour prier selon le cœur de Dieu. Pas pour imiter telle personne dans le monde entier, parce que ce que Dieu veut faire avec vous, il va pas, c'est peut-être pas exactement l'identique de ce que Dieu fait aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Peu importe. C'est important d'entendre sa pensée à lui. Et donc, elle se nourrit, Déborah se nourrit d'une ambiance spirituelle. Elle siégeait entre Rama et Bethel en tant que prophétesse et juge. Et je crois que c'est tellement important. Rama veut dire hauteur et Bethel veut dire maison de Dieu. La hauteur, Rama. Recherchons le Seigneur et les choses d'en haut, voulant toujours nous élever plus près de Dieu et que chaque jour qui passe nous voit grandir un nouvel échelon de l'échelle de Jacob. Hein, à Bethel, vous savez, l'échelle, hein, il y avait de la hauteur. Là, les anges qui montaient et qui descendaient. Nous puissions monter des échelons de cette échelle pour grandir, pour être plus près de Dieu et voir davantage ce que le Seigneur désire pour nous. Dépendons de Dieu dans sa parole et par la prière constante. Je crois que c'est important. La parole et la prière en 2017, ça doit vraiment être nos deux rails. Ça, c'est très important. Hein. En conclusion, soyons comme Déborah et Néhémie, qui se sont levés parce qu'ils avaient compassion de l'œuvre de Dieu. Ils avaient vraiment une vision claire. Hein. Déborah, elle voyait comment gagner sur... Dieu lui avait donné cette image du succès, d'une victoire sur l'ennemi. Néhémie avait cette vision d'une muraille reconstituée, rétablie, des portes qui sont remises dans leur état, etc., etc. Et donc, il voyait quelque chose, il voyait déjà l'ensemble de ce qui allait se produire. Il avait un objectif que Dieu lui avait donné, et eh bien, étape par étape, ça va se faire, parce que des gens vont se lever à sa suite. Lui va se lever, et les autres autour de lui vont se lever pour accomplir cette mission du Seigneur. Et Déborah, mais voilà, donc elle verra cela aussi s'accomplir, une victoire, parce que Barak va écouter, il y aura des tribus qui vont se mettre au service et ils vont réussir, avec le peu qu'ils étaient peut-être, mais ils vont réussir. Alors, dépendons de Dieu dans notre service comme Déborah, qui obéissait à la parole de Dieu et ne se fiait pas à ses pensées personnelles. Ne nous fions pas à nos pensées personnelles. Nos pensées personnelles peuvent nous tromper. Hein, on peut avoir des pensées qui sont justes, mais on peut avoir aussi, comme je le disais, des pensées qui sont plus notre plan que son plan. Puissions-nous découvrir quel est notre plan, notre place dans son œuvre et le plan qu'il a prévu pour nous. Ne puissions pas nous tromper parce que ça va créer du découragement. Parce que nous n'arriverons pas. Si c'est pas le plan de Dieu, ce ne sera pas fait comme Dieu le veut, ce ne sera pas fait par les bonnes personnes. Et on n'arrivera pas à réaliser ce pourquoi nous sommes faits. Je crois que c'est très important de dépendre de Dieu à ce niveau-là et se confier en lui. Imitons les exemples bibliques qui ont développé des résolutions qui les ont amenés plus loin. Paul disait dans 2 Timothée 3:10, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions. » Tu as suivi mes résolutions, Timothée. Et, ouais, il imprime les résolutions que Paul avait, Timothée les avait aussi. « Ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ, disait Paul. Imitons les exemples bibliques. » Et nous deviendrons des exemples pour les autres. Que nos résolutions manifestent la grâce et la gloire de Dieu. nous ayons des résolutions qui vont glorifier Dieu, qui seront des exemples pour les autres. Alors, est-ce que nous pouvons prier pour ça? Seigneur Père, nous te demandons vraiment, Seigneur, de bénir cette année 2017. Nous voulons avoir des résolutions dans notre cœur qui te plaisent, des résolutions qui sont dans ton cœur, que tu veux déposer dans nos cœurs. Nous voulons que tu confirmes les résolutions qui sont dans nos pensées, que tu les confirmes, parce que ces résolutions-là, elles sont confirmées par toi, par ta parole, par ton esprit. Nous savons que nous les atteindrons et nous voulons être confiants en toi. Seigneur, au niveau personnel, que vraiment que tu puisses nous conduire les uns et les autres à réussir une vie équilibrée avec toi, réussir notre vie de couple, réussir notre vie de famille, à bien enseigner nos enfants, à les conduire à toi, bien les éduquer. Merci Seigneur parce que nous te remettons notre travail, que nous puissions réussir dans notre travail, la sphère de notre travail que tu nous as donnée. Nous puissions réussir, prospérer, parce que c'est toi qui pourvois nos besoins et tu pourvois avec des personnes qui sont fidèles dans leurs responsabilités. Tu nous donnes du courage, tu renouvelles. Merci aussi, Seigneur, pour l'Église, que notre Église puisse continuer à s'engager dans le plan que tu as pour le dessein que tu as pour cette Église, les projets, les objectifs. Nous voulons plus d'âmes qui te suivent. Nous voulons que chaque âme de cette Église prospère, que nous puissions garder tous la foi et grandir, devenir matures, des êtres qui vivent avec toi et qui grandissent dans la connaissance de celui qui les aime. Et nous voulons que notre Église puisse aussi permettre à d'autres de venir à toi, que chacun puisse parler de toi avec efficacité. Merci Seigneur. Merci de nous aider à avoir une vie où nous nous en sortons, une vie vraiment qui glorifie ton nom. Donne-nous de ne pas nous surcharger d'objectifs qui ne viennent pas de toi, mais qui vont nous encombrer et nous démolir plus qu'autre chose, mais que nous ayons les objectifs qui sont sur ton cœur et tu les mets sur notre cœur, afin que nous les accomplissions et que nous les réussissions. Nous voulons réussir à glorifier ton nom. Nous voulons que cette année, et nous proclamons que cette année 2017, nous allons glorifier ton nom. Des âmes vont être sauvées. L'Église va être fortifiée. Nous allons être des modèles, des disciples qui imitent Paul, qui imitent Jésus. Nous allons être de bons maris, de bonnes épouses. Nous allons être de bons pères qui vont réussir dans l'éducation de leurs enfants. Tu nous donnes toute la patience, la douceur, l'intelligence de l'amour. Donne-nous l'intelligence de l'amour cette année. Nous puissions être intelligents, animés par les compassions, animés par l'amour du Dieu vivant. Merci Seigneur. Tu vas nous bénir au travail. Nous soyons un modèle au travail. Bénis toutes nos relations sociales. Bénis notre ministère dans l'Église, que nous puissions prospérer dans ce que tu nous donnes de faire. Nous puissions réussir à honorer ton nom. Et que l'Église puisse aller de l'avant et glorifier ton nom. Merci Seigneur. Si deux ou trois veulent le prier, qu'ils puissent le faire maintenant.
Seigneur, nous ressemblons peut-être à des lorrains.
À Jésus. Oui, Seigneur, amen. Oui, Père, amen.
Parce que l'ennemi nous décourage, parce que l'ennemi nous paralyse, parce que les situations ne sont pas comme nous voulions. Mais nous voulons garder la foi, Seigneur, parce que nous encourageons.
Amen. Amen.
Celui qui nous encourage, qui renouvelle leur force chaque jour. Nous voulons compter sur toi chaque jour.
Amen.
Et nous devons y aller.